VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. En Gambie, les électeurs sont appelés aux urnes jeudi pour choisir leur président. Dans ce scrutin à un tour, le pays a trouvé sa propre solution pour faire face à la fraude et à l'analphabétisme. Le vote avec des billes, un système unique au monde, Nani Talani.
Le système gambien est unique. Il y a trois urnes métalliques de couleur verte, violette et grise représentant les trois candidats. Avant le vote, l'électeur reçoit une bille, puis va derrière l'isoloir et glisse la bille dans l'urne, un petit bidon cylindrique de 60 cm de haut. L'introduction de la bille dans l'urne fait tinter une clochette censée empêcher un deuxième vote frauduleux. De la sciure de bois ou du sable atténue le bruit de la bille sur le métal. Ce système permet de lutter contre la fraude et aide les illettrés à voter plus facilement en garantissant le principe « une personne, une voix ». Il y a trois candidats en lice, dont Yahya Jammeh, le président sortant. Au pouvoir depuis 22 ans, il sera confronté pour la première fois à un véritable défi face à une opposition qui fait bloc derrière Adama Barrow et Mama Kondé, anciens députés du parti au pouvoir qui se présentent sous les couleurs d'une nouvelle formation politique.
La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant. Le djihadiste d'origine algérienne Mokhtar Belmokhtar, qui a mené plusieurs opérations sanglantes dans le Sahel, aurait été tué en Libye par une frappe aérienne française. C'est ce qu'affirme un responsable américain, confirmant des informations parues dans le quotidien Wall Street Journal. Eric Manirakiza.
La frappe a eu lieu en novembre avec le soutien du renseignement américain. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a rencontré à Washington hier le chef du Pentagone, Ashton Carter. Monsieur Le Drian, qui n'a fait aucun commentaire, devait aussi rencontrer le général Michael Flynn, le futur conseiller pour la sécurité nationale du président élu Donald Trump. Selon le quotidien américain le Wall Street Journal, la frappe illustre l'étendue de la coopération militaire et de renseignement entre les États-Unis et la France, renforcée après les attentats de Paris en novembre 2015. Surnommé le Borgne, le djihadiste algérien a déjà été donné pour mort à plusieurs reprises, notamment en juin 2015 et en 2013. Mokhtar Belmokhtar, chef du groupe Al-Morabitoun, est l'un des djihadistes les plus recherchés de la région du Sahel, où il a mené de nombreuses attaques sanglantes. Les États-Unis avaient mis sa tête à prix pour 5 millions de dollars.
Au Burundi, tentative d'assassinat du responsable de la communication présidentielle Willy Nyamitwe lundi soir alors qu'il rentrait chez lui à Bujumbura, la capitale. Il a été blessé au bras selon un cadre de la présidence. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Dans un point de presse ce matin, la police fait état d'une tentative d'assassinat de Willy Nyamitwe, porte-parole du président burundais, lundi vers 21h30, alors qu'il se rendait à sa résidence située dans le quartier de Kajaga, à l'ouest de Bujumbura. Un des gardes de Willy Nyamitwe, appelé Gasongo, a été tué sur le champ, tandis qu'un autre policier a été blessé, conduit à l'hôpital, Willy Nyamitwe. Il s'est dit attristé dans un tweet par la mort du policier. Pour le porte-parole de la police, l'ennemi est le même. Ce sont des criminels basés à Kigali qui attaquent et commet des assassinats ciblés. Pierre Ngourikié déclare que la police connaît ceux qui sont derrière ces attaques et qui le commanditent depuis Kigali. Le porte-parole promet à la population des poursuites et arrestations pour le démantèlement complet du réseau dans le but de protéger la population et les autorités. Depuis fin avril 2015, le Burundi est plongé dans une crise qui a déjà fait plus de 500 morts, poussant aussi à l'exil plus de 300 000 personnes selon les Nations Unies. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Alain-Aimé Nyamitwe, frère de Willy Nyamitwe, ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale du Burundi, a dénoncé sur Twitter une nouvelle vaine tentative de perturber les institutions républicaines, dit-il. Selon le porte-parole de la police, Pierre Nkurukiye, les forces de l'ordre étaient sur la piste du commando chargé de tuer Willy Nyamitwe et avaient arrêté deux militaires, le colonel Dieudonné Douchimagizé, alias Gangi, et le caporal Jean-Claude Ndourimana avant la tentative d'assassinat, mais sans pouvoir empêcher l'attaque. Le caporal Ndourimana a avoué qu'ils avaient la mission d'assassiner Willy Nyamitwe, affirme Pierre Nkurukiye.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RCA, la France a exhorté aujourd'hui les différents groupes armés dans le pays à cesser toute violence et à rejoindre le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement mis au point par les autorités centrafricaines. Un appel lancé ce mardi par le porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal, qui serait lié aux récentes violences ayant fait 85 morts dans la région de Bria, dans le centre de la RCA. Ces affrontements, les 21 et 22 novembre, entre groupes armés de l'ex-rébellion Séléka, se sont soldés par 85 morts, essentiellement des Peuls. Un sommet régional sur la situation politique et sécuritaire dans une dizaine de pays d'Afrique centrale se tiendra mercredi à Libreville, au Gabon, et à l'initiative de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. Au programme de ce sommet extraordinaire figure notamment la lutte contre les djihadistes de Boko Haram au Cameroun et au Tchad, les affrontements entre groupes armés en Centrafrique ainsi que l'instabilité politique en République démocratique du Congo et au Burundi. La situation et les tensions post-électorales au Gabon, au Congo-Brazzaville et au Tchad devraient aussi être évoquées, a indiqué le secrétaire général de la CEAC, Ahmad Alami, cité par plusieurs sites d'information africains. Politique en RDC maintenant, audience publique ce mardi à la Commission des droits de l'homme du Congrès des États-Unis à Washington sur la République démocratique du Congo. Au programme, la démocratie dans le pays, alors que la date du 19 décembre, fin du mandat du président congolais Joseph Kabila, approche à Kinshasa, et qu'aucun compromis n'a été trouvé entre toutes les composantes de la classe politique congolaise. Parmi les experts invités à témoigner au Congrès figure un professeur d'origine congolaise qui enseigne à l'Université Johns Hopkins de l'État du Maryland. On écoute Mwemba Dizolele au micro de Nicolas Pino.
À Washington, la situation est plus nuancée que ça. Là, Washington ne parle pas d'une même voix. Il y a le Congrès, où il y a différentes voix. Il y a l'ambassade américaine à Kinshasa, qui est plus peut-être modérée dans ses déclarations. Mais il y a aussi le département d'État et l'envoyé spécial. Donc même là, je pense qu'on est d'accord que les États-Unis encouragent le pourparler. Mais les États-Unis tiennent à ce que la Constitution soit respectée. La Constitution, le respect de la Constitution accorde au président deux mandats de 5 ans chacun. Au cas échéant, la Constitution prévoit que le transfert de pouvoir va du côté du président du Sénat, qui va gérer une transition pour 90 à 100 jours. Et dans le contexte actuel, je pense que c'est quand même difficile de croire qu'on pourrait avoir les élections dans 90 jours. La commission électorale a commencé la révision du fichier électoral, ce qui prendra du temps. Donc il y a beaucoup plus d'éléments qu'il faudra gérer, mais l'esprit de la Constitution, tel que les États-Unis l'encouragent, demande à ce que les stipulations soient respectées.
Le professeur Mwemba Dizolele de l'Université Johns Hopkins au Maryland, ici aux États-Unis. Au Zimbabwe, nouvelle forme, nouvelle monnaie sous forme de billets d'obligation, une des monnaies indexées sur le dollar américain. L'initiative répond au souci de résoudre le problème de manque de liquidité, mais cette monnaie nouvelle suscite de vives préoccupations dans les milieux d'affaires comme chez les gens ordinaires au Zimbabwe. Yadzi Kabeya, directeur général de la plateforme de Student Hub, une entreprise éducative basée en Afrique du Sud, pense que le changement de monnaie au Zimbabwe est une vaine entreprise.
Déjà au Zimbabwe, la monnaie est devenue de plus en plus rare. Ça pousse les gens à trouver des moyens, même criminels, de pouvoir obtenir la monnaie. Parce qu'il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire avec la nouvelle monnaie qu'ils ont introduite. Et le Zimbabwe, il n'y a déjà rien de produit localement. Tout dépend des imports qu'ils font à partir de l'étranger. Ça devient difficile. De l'époque où il y avait le dollar zimbabwéen qui a obtenu un taux d'inflation de 100 000%, un record mondial déjà, à maintenant, il n'y a rien qui a changé. L'économie est toujours au plus bas et la politique monétaire est quasiment la même. Il y aura l'inflation et ils vont retourner au dollar parce qu'il n'y a vraiment pas de vision ou de plan pour sortir le pays du chaos économique. Donc la même situation va se répéter.
Yadzi Kabeya, directeur général de la plateforme de Student Hub, une entreprise éducative basée au Cap en Afrique du Sud. Et pour terminer, présidentielle haïtienne, victoire contestée de Jovenel Moïse au premier tour avec plus de 55% des suffrages contre 19,52% à son principal adversaire Jude Célestin. Ce dernier parle de tricherie et promet de saisir les tribunaux. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.